Christian Théin remis en liberté sous contrôle judiciaire en métropole. Nous en avons parlé ce midi avec Nicolas Metzdorf. Le député de la première circonscription était l'invité du magazine Transparence. Un début de week-end pluvieux, une vigilance orange forte pluie orage a été émise par Météo France Nouvelle-Calédonie pour la côte Est, Poum et Bélep. Des activités tournées vers la préservation de la mangrove seront organisées ce week-end. Les amateurs de la mer pourront quant à eux se rendre au salon nautical avant le top départ de la Groupama Race ce dimanche. Jour de chance pour les uns ou de poisse pour les autres. En ce vendredi 13, les jeux d'argent cartonnent et le bingo et les casinos font le plein. Attention, c'est un programme sportif chargé qui s'annonce ces prochains jours, que cela soit sur le territoire ou à l'international. On voit tout ça en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Une édition que nous débutons avec l'annonce ce matin de la libération de Christian Théin. Pour Nicolas Metzdorf, la libération du leader de la CCAT fait l'effet d'une bombe. De retour de Paris depuis quelques jours, le député de la première circonscription était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Baudin.
Et Nicolas Metzdorf a d'abord été interrogé sur la décision de la Cour d'appel de Paris qui, cette nuit pour nous, a prononcé la remise en liberté du leader de la CCAT, même s'il reste mis en examen pour complicité de tentative de meurtre et destruction en bande organisée.
C'est incompréhensible. Christian Théin, il est responsable de la CCAT et du soulèvement de l'insurrection qu'il y a eu le 13 mai dernier et qui a détruit l'économie calédonienne et la vie de milliers de Calédoniens. Donc libérer Christian Théin à quelques encablures de l'ultime négociation sur l'avenir du pays est un très mauvais message envoyé par la justice française. La deuxième chose, c'est que Christian Théin, il n'est pas acquitté, il n'est pas gracié. Christian Théin, il est sorti de sa détention provisoire, mais il reste mis en examen pour des chefs d'inculpation graves. Il est sous contrôle judiciaire et il ne peut pas quitter le territoire métropolitain pour rentrer en Nouvelle-Calédonie. Donc ce n'est pas une victoire politique ni judiciaire de Christian Théin.
Christian Théin est toujours soupçonné d'être responsable des émeutes, insiste Nicolas Metzdorf, à qui il a été demandé s'il pensait que le président du FLNKS allait participer aux discussions sur l'avenir.
Je sais pas, on va bien voir, mais ça c'est nous une condition qu'on pose à l'État tout de suite, hein. C'est-à-dire que moi à titre personnel, et je suis sûr que l'ensemble des loyalistes suivants, moi je n'irai pas à la table des négociations avec Christian Théin. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour quelques négociateurs indépendantistes qui sont aujourd'hui autour de la table, faut pas trop nous en demander quand même.
Le député de la première circonscription a ensuite été interrogé sur sa rencontre avec le président de la République à la fin du mois de mai, et sur ce qu'il retient de cet entretien.
On peut retenir plusieurs choses. Un, c'est qu'il reprend le dossier, moi c'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit attention, nous aujourd'hui on a un ministre des Outre-mer qui a pris position pour l'indépendance association de la Nouvelle-Calédonie, donc pour les indépendantistes. Pour nous c'est quand même rédhibitoire pour la suite des négociations, donc on a besoin aujourd'hui du président de la République dans le dossier calédonien puisqu'on touche à l'intégrité du territoire de la République française. La deuxième chose, c'est que ce qu'on sait et ce que le président de la République m'a dit, c'est que le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie sera dans la France parce que les trois référendums sont actés, hein. C'est d'ailleurs ce qu'il a rappelé lors de sa déclaration à Nice, hein. Il y a eu trois référendums qui maintiennent la Calédonie dans la République française, donc ça c'est un fait. Donc je pense qu'on peut retenir deux choses. Un, c'est le président de la République qui pilote le dossier. Deux, le futur statut sera dans la France.
Le sommet sur la Nouvelle-Calédonie aura lieu début juillet et en plus de la séquence institutionnelle, il y aura une séquence économique et sociale, précise le député de la première circonscription. Mais il relève que l'organisation d'un tel rendez-vous prend plus de temps en termes de logistique quand il se déroule sous la présidence du chef de l'État. Très sévère envers le ministre des Outre-mer, Nicolas Metzdorf reproche par ailleurs à Manuel Valls, comme à Marine Le Pen, de sous-estimer les non-indépendantistes.
Ce sont des gens qui pensent que la Nouvelle-Calédonie, ce sont des indépendantistes kanaks et des autres qui sont arrivés comme ça par hasard, un peu perdus, sans histoire, sans racines, sans culture, sans conviction et qui sont un peu là pour faire de l'argent et accumuler des biens en Nouvelle-Calédonie. Mais attention, les non-indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, hein, c'est une population majoritaire, c'est une population qui s'est toujours mobilisée depuis 40 ans pour défendre la Calédonie française. Et donc on ne peut pas arriver et leur expliquer que bah, finalement, il faut peut-être réfléchir à être intelligent avec des gens qui ont tout cassé parce que, de toute façon, l'histoire et le chemin un peu automatique qu'a la Nouvelle-Calédonie, c'est l'indépendance. Attention, nous, on a des valeurs. On vient d'une grande civilisation quand même. Hein. La démocratie, pour nous, ça veut dire quelque chose. L'état de droit, pour nous, ça veut dire quelque chose. La sécurité et l'égalité entre tous les citoyen, ça veut dire quelque chose. Donc Marine Le Pen, elle ne peut pas arriver avec une forme de condescendance et expliquer aux Calédoniens, victimes des émeutes, ce qui serait bon pour eux. Je trouve qu'elle nous a sous-estimés. Et c'est toujours l'erreur que font les élites parisiennes, c'est qu'ils nous sous-estiment. Et à chaque fois, après, ils sont surpris de nos réactions et de notre combat. Donc j'espère pour eux un jour qu'ils arrêteront de nous sous-estimer, parce que pour l'instant, l'histoire nous donne raison. La Calédonie, elle est toujours française et elle va le rester.
Le député de la première circonscription exprime aussi sa préoccupation pour la situation économique et il explique que son rôle comme membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est de s'assurer que les crédits de l'État sont maintenus pour la Nouvelle-Calédonie. Il se dit aussi très soucieux de la filière nickel, dont il a parlé avec le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, notamment pour évoquer la SLN après les déclarations de Christelle Bory sur le désengagement des ramettes.
Les engagements que j'ai eus jusqu'ici, c'est que, évidemment, tout allait être maintenu jusqu'à temps qu'un nouvel éventuel repreneur soit présent. Je trouve que ce qui se passe sur la filière du nickel aujourd'hui est aussi une opportunité. Moi, j'aime bien voir aussi le verre à moitié plein. Je trouve que ça fait quelques années déjà qu'Eramet ne réinvestissait plus dans l'outil calédonien et l'État qui aujourd'hui paye à la place d'Eramet. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on aille chercher des personnes qui croient au nickel calédonien et qui n'aient pas peur d'investir. Donc, je pense qu'aussi, on va profiter des discussions institutionnelles à Paris pour voir ce qui est possible de faire sur la filière nickel, sur l'ensemble du territoire calédonien. Je pense qu'on a aujourd'hui l'opportunité d'avoir une véritable stratégie de nickel à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie qui puisse rapporter de l'argent.
Et Nicolas Metzorf rappelle aussi qu'aujourd'hui, la Calédonie vit uniquement de l'argent de la France. Et pour lui, on ne peut pas déconnecter la question institutionnelle de la question économique. L'État ne continuera pas à financer la Calédonie, quel que soit son statut politique. Il en a notamment parlé avec son collègue Emmanuel Tchibaou.
Je lui ai dit, attention Emmanuel, tu demandes plus d'autonomie à la Nouvelle-Calédonie, mais dans le même temps, tu t'inquiètes des frigidaires vides de la population calédonienne. À un moment donné, ça ne marche pas ton truc. Parce que quand on va dire, imaginons qu'on prenne ton projet d'État associé. Si tu crois qu'au moment de l'arbitrage à Bercy, le ministre des Finances va dire, écoutez, il ne me reste que 2 milliards à répartir sur les territoires d'outre-mer, qui va répartir équitablement les 2 milliards d'euros entre les départements d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et à la fin, entre cette espèce d'État associé bizarroïde, mais les 2 milliards d'euros, on n'en verra pas la couleur. Et sur les compétences régaliennes qu'on aurait, nous, Calédoniens, qu'on déléguerait derrière à la France, comme par exemple, je ne sais pas moi, la sécurité, quoi qu'on aurait le même nombre de gendarmes et de policiers qu'aujourd'hui en étant un État associé, c'est faux. Moi, je le vois bien à Paris. Ils cherchent 40 milliards d'euros d'économie. Si nous, on prend le risque d'être plus autonome, d'être plus indépendant, on va en payer les conséquences concrètes pour le quotidien des Calédoniens. Aujourd'hui, il faut comprendre que tous les services publics que vous voyez autour de vous, ce que font les communes, ce que font les mairies, ce que fait la province, ce que fait le gouvernement, c'est grâce à l'argent de la France qui est arrivé.
Le député de la première circonscription affirme enfin être plutôt serein avant de reprendre les discussions sur l'avenir. On va à Paris, dit-il, pour chercher un bon accord pour la Nouvelle-Calédonie, un accord qui sera dans la France.
Une interview de Nicolas Metzdorf qui sera rediffusée dans son intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur le site internet rrb.nc. Christian Théin a donc été remis en liberté. Le leader de la CCAT a quitté la prison de Mulhouse où il était incarcéré depuis près d'un an. Il est sorti en voiture du centre pénitentiaire, accompagné par sa compagne qui s'est installée à Mulhouse. Sa libération avait été prononcée quelques heures plus tôt par la Cour d'appel de Paris, Jean-François.
C'était une issue prévisible après que les trois magistrats instructeurs qui enquêtent à Paris sur les violences insurrectionnelles de 2024 aient ordonné le 3 juin la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Christian Théin, quelques jours après son interrogatoire le 27 mai. Ils estiment notamment qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas démontré que Christian Théin ou d'autres mis en examen auraient préparé un attroupement armé ou un groupement violent. Le 3 juin, le parquet avait fait un référé détention qui avait obligé le leader de la CCAT à rester incarcéré jusqu'à l'audience de ce jeudi 12 juin. Le ministère public, qui était opposé à cette libération parce qu'il soupçonne Christian Théin d'être le commanditaire d'un plan d'action violente contre l'État en trois phases, visant à déstabiliser les entreprises et commerces, les administrations et services de l'État par la commission de nombreuses exactions contre les biens et les personnes. L'avocate générale avait requis son maintien en détention provisoire parce que c'était, selon elle, l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse et que c'était la garantie que Christian Théin réponde aux convocations des juges d'instruction. Le parquet qui n'a pas été suivi par la Cour d'appel de Paris. Elle a décidé de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie et de contacter d'autres protagonistes du dossier. Il reste donc mis en examen pour complicité de tentative de meurtre et destruction en bande organisée. La Cour d'appel a également remis en liberté trois autres militants indépendantistes incarcérés en métropole. Il s'agit de Dimitri Kenegay, de Guillaume Vama et d'Erwan Waetean. Et elle a aussi confirmé la libération de Steve Ouné.
La décision de la Cour d'appel de Paris de remettre en liberté Christian Théin suscite de nombreuses réactions.
Vous avez entendu tout à l'heure la réaction du député Nicolas Metzoff, qui était l'invité d'Elisabeth Noir dans Transparence. De son côté, Sonia Baquès parle sur sa page Facebook d'une décision incompréhensible, alors même que les blessures du 13 mai sont encore ouvertes. C'est selon elle un signal troublant envoyé à ceux qui ont choisi la République, la légalité et la paix. Mais nous ne céderons ni à l'amertume ni à la colère, ajoute la chef de file des loyalistes qui affirme notre détermination reste intacte. Virginie Rufnacht parle quant à elle d'une justice injuste et elle dit ressentir une immense colère. Colère pour ceux qui ont souffert, pour ceux qui ont tout perdu. La justice devrait être impartiale et forte, écrit la présidente du groupe Rassemblement au Congrès. Et ici, elle semble corrompue et entravée. Je refuse de me taire, ajoute Virginie Rufnacht, parce que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce que des centaines de personnes traversent encore aujourd'hui ne peut pas être balayé d'un revers d'accord ou de compromis. Dans un communiqué commun, les loyalistes et le Rassemblement expriment leur plus vive indignation après cette décision rendue par la Cour d'appel. Elle illustre une fois encore la coupable faiblesse d'une justice métropolitaine manifestement indifférente à l'ampleur des souffrances que nous avons endurées. Les loyalistes et le Rassemblement LR partagent aujourd'hui la colère légitime des Calédoniens qui œuvrent avec courage pour reconstruire un pays meurtri par les actions de la CCAT et de Christian Théin. Satisfaction en revanche du sénateur Robert Rouy et du député Emmanuel Tchipaou. Les deux parlementaires indépendantistes déclarent dans un communiqué commun « Aujourd'hui est un grand jour ». Pour eux, cette décision marque, et je cite, « une victoire morale, politique et humaine pour notre peuple et notre lutte ». Dans un communiqué, le FLNKS exprime lui sa grande satisfaction. Il estime que le combat judiciaire n'est pas terminé, mais que cette mise en liberté constitue une étape importante dans le traitement de la procédure. C'est aussi ce que déclare Dominique Fauchy pour l'animation du bureau politique.
Tout d'abord, c'est une grande satisfaction, hein, une étape importante dans la procédure judiciaire, qui fait suite au dépaysement du dossier et à son traitement impartial. Donc voilà, grande satisfaction pour le président et tous les autres militants qui ont été remis en liberté. En tout cas, le travail judiciaire, il n'est pas fini, comme je disais, c'est une étape. Et on a une pensée aussi pour les autres militants qui sont encore derrière les barreaux, hein, que ce soit au pays ou bien encore en France. Le travail, il n'est pas fini. Christian Théin, c'est le président du FLNKS depuis le 43e congrès, donc c'est lui le patron du FLNKS, puisqu'il est désormais en liberté. On va attendre ses directives. En tout cas, la motion du 43e congrès du FLNKS à Saint-Louis a souhaité sa participation aux négociations. Donc ça, c'est des choses qui ont été actées en congrès.
Le FLNKS ajoute que le combat politique se poursuit conformément à la convention du FLNKS qui s'est réunie samedi dernier à Dumbéa et qu'un prochain rendez-vous sera organisé pour examiner la situation et envisager les perspectives de la poursuite du dialogue dans un esprit apaisé et constructif. Réaction également sur X de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, victoire, écrit le leader de la France insoumise. Les leaders kanaks emprisonnés à 17 000 km de chez eux sont enfin libérés. Christian Théin et ses camarades seront bientôt parmi nous.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. 79% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils ne partagent pas l'analyse d'Emmanuel Macron quand il déclare que ni la culture pacifique, ni la culture océanienne ou mélanésienne ne sont totalement faites pour les référendums. Ils sont 21% à dire, en revanche, qu'ils partagent l'analyse du président de la République. Notre question du jour, l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans vous semble-t-elle une mesure réaliste pour lutter contre la violence chez les jeunes? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. L'UGPE satisfaite de la décision du tribunal administratif. L'Union des groupements des parents d'élèves réagissait ce matin à l'ordonnance du 10 juin, Charlotte Coulson.
C'est ce texte qui introduit une durée de résidence minimale de 10 ans en province sud pour être éligible aux bourses scolaires. Un dispositif pris au lendemain des émeutes par la province sud pour faire face à la baisse des recettes fiscales. Depuis, l'UGPE a introduit de nombreux recours concernant des cas d'élèves qui n'étaient pas inscrits ou ne bénéficiaient pas des bourses et avaient notamment été débouté le 17 avril dernier. Ce coup-ci, il s'agissait d'un référé suspension concernant la délibération. L'ordonnance du 10 juin enjoint la province sud de réexaminer la demande présentée par l'UGPE tendant à l'abrogation des dispositifs de la délibération. Jean-François Houtikian, le secrétaire de l'UGPE.
Alors dans l'immédiat, ça ne change rien. Dans un délai d'un mois, il faut vraiment que la province sud se mette à la page et puis suive ce que le tribunal lui a enjoint de faire. Il faut qu'on arrive à se mettre tous autour de la table, notamment les élus, et qu'ils rediscutent de cette délibération du 15 juillet 2024 qui n'apporte absolument rien, ni à la collectivité, ni aux familles. Enfin voilà, hein, c'est vraiment une délibération qu'il faut revoir. Maintenant, le tribunal administratif va devoir se positionner sur le fond du problème. Et bon, on a quand même bon espoir que voilà, les conclusions qui ont été dressées par le président du tribunal administratif soient suivies quand même par les trois juges.
Et on rappelle que la province sud va introduire un recours contre cette décision. Il s'agit d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. L'institution dispose de 15 jours pour le faire. Elle indique que compte tenu de la persistance d'un contexte budgétaire comparable à celui qui avait justifié l'adoption de cette mesure, la province sud a décidé de faire appel de cette décision.
Au chapitre institutionnel, la commission permanente du Congrès s'est réunie ce matin. Les élus ont pris connaissance de deux rapports de la Chambre territoriale des comptes sur les établissements publics administratifs et d'un rapport sur leur activité 2023. En bref, une personne a été interpellée par la gendarmerie cette nuit à la Tontouta. L'homme était retranché chez lui et menaçait sa famille avant que les gendarmes ne procèdent à son arrestation. Et puis à Nouméa, le dispositif de surveillance mis en place par la police nationale porte ses fruits. Les contrôles de la BAC et de l'unité cynophile ont permis d'intercepter hier soir 3 individus en train de voler un véhicule. Il s'agissait d'un véhicule en stationnement au niveau de Porte de Fer. Et la gendarmerie a émis une nouvelle disparition inquiétante aujourd'hui. Il s'agit de Lydie Yotefa, âgée de 14 ans. Elle a quitté son domicile familial situé au Mont d'Or ce jeudi vers 13h et n'a plus donné signe de vie. Elle a les yeux marrons, cheveux noirs, mi-longs, de corpulence mince et mesure 1m64. Elle pourrait se trouver en compagnie de son compagnon domicilié au Tour de Magenta. Si vous détenez une information, contactez le 44 87 26 44 87 26 ou le 17. Enfin, nous vous parlions ce midi d'un avis de recherche pour un randonneur disparu au Mont Cogui depuis mardi dernier. Et il s'avère finalement que l'homme est en réalité retourné en métropole, mais sans prévenir les gendarmes qu'il avait contactés après s'être égaré en forêt. C'est le grand-père du randonneur qui a appelé la gendarmerie après avoir pris connaissance de l'appel à témoins. 18h, passé de 4 minutes, première pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et notamment les vigilances émises sur le territoire par Météo France Nouvelle-Calédonie.
Pendant les vacances, Bureau Vallée pense à vous. Les rayons Beaux-Arts, Loisirs Créatifs et Librairies sont à moins 20%. Rendez-vous dans votre magasin Bureau Vallée Magenta, ouvert en continu de 8h à 18h du lundi au samedi.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable du 7 au 21 juin 2025.
Cette année, célébrez la fête des pères avec Nespresso. Offrez-lui un moment café inoubliable et profitez jusqu'à 15 000 francs de remise sur nos machines. Rendez-vous dès maintenant dans votre boutique Nespresso, 33 rue de Sébastopol à Nouméa, par téléphone au 050 200 ou sur notre site internet nespresso.nc. Offre soumise à condition, disponible en boutique.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La Sud-Info Soir, Léana Colombo.
Et le soleil ne sera pas au rendez-vous ce week-end. Météo France Nouvelle-Calédonie annonce une vigilance orange forte pluie et orage sur 11 communes de la côte Est, ainsi que sur Bélep et Poum. Des averses orageuses sont attendues en cours de nuit prochaine et en début de matinée. Demain, une vigilance jaune a également été émise sur ces mêmes communes pour des rafales de 35 à 45 nœuds, soit jusqu'à 85 km/h. Le reste du territoire est concerné par une vigilance jaune forte pluie et orage pour un risque d'averse orageuse la nuit prochaine. La sécurité civile appelle donc la population à la prudence et à se tenir informée de l'évolution de la situation. Une information qui concerne les usagers du Betticho. En raison d'un problème technique, le bateau n'est pas en mesure d'assurer ses rotations vers Marais et Lifou. Les trajets sont reportés à demain aux mêmes heures. La rotation prévue demain vers l'île des Pins est quant à elle annulée et reportée à ce dimanche. Nul besoin de changer ses billets, ils sont automatiquement reprogrammés. La Sudil indique que ses équipes techniques sont pleinement mobilisées pour résoudre l'incident au plus vite. Et la vente d'alcool est interdite depuis ce matin à Lifou. Et Charlotte, c'est jusqu'à mercredi prochain.
Oui, une décision prise par les services du Haut-Commissariat. Mais il s'agit avant tout d'une demande des autorités coutumières. À l'approche du mariage de Jonathan Boula, le fils du grand chef du district de Lossy, elle souhaite éviter tout débordement. Les précisions de Jules Malocco, commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté.
C'est un arrêté qui interdit la vente d'alcool dans les commerces de proximité. Cet arrêté d'interdiction a été convenu avec les autorités coutumières, la province et la commune de Lifou en raison d'un afflux très important d'invités au mariage du fils du grand chef du district de Lossy. On déplore déjà sur les îles Loyauté un accident mortel sur Marais et un accident grave sur Lifou qui a justifié une évacuation sanitaire sur Nouméa par les forces armées de Nouvelle-Calédonie, que par ailleurs il y a une vraie carence de médecins sur Lifou. Et les services d'urgence sont assurés à minima par le dispensaire de Houé. Donc pour toutes ces raisons, nous allons renforcer les contrôles de gendarmerie. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai interdit la vente d'alcool dans les commerces dès ce jour jusqu'au 18 juin.
Et la vente d'alcool est donc interdite jusqu'au mercredi 18 juin uniquement à Lifou.
Et si demain était le jour pour faire une bonne action? Nous célébrons demain la journée mondiale des donneurs de sang. Qui peut donner son sang? Comment le faire? Quelles sont les contre-indications? Des membres de l'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie seront présents au géant Sainte-Marie de Nouméa et à l'hyper-U de Païta de 8h à midi pour répondre aux questions des passants et les sensibiliser. Gérard Joyot est membre de la DSBNC.
Comme tous les ans, on va essayer de sensibiliser la population. Et cette année, on va se retrouver devant deux grandes surfaces. Dans les deux cas, nous aurons un stand où nous allons informer la population sur tout l'intérêt de donner son sang, à quoi ça sert. Et l'occasion aussi de remercier tous ceux qui viennent nous voir qui sont déjà donneurs, parce que cette journée-là, c'est aussi la reconnaissance envers tous les donneurs. Actuellement, on est pas mal. Les stocks sont relativement bons. C'est vrai que c'est un peu cyclique. Depuis le début de l'année, on était un petit peu en pénurie sur des groupes tels que les groupes O plus ou moins. Je pense qu'à l'issue de la journée de demain, où on aura sensibilisé la population, la semaine prochaine, il y aura probablement un peu plus de donneurs et ça va permettre de bien stabiliser les stocks.
Une journée qui marque également les 47 ans d'engagement de l'ADSBNC créée en 1978 en Nouvelle-Calédonie. La mangrove à l'honneur aujourd'hui et demain à Sainte-Marie. Aujourd'hui était organisé un chantier citoyen pour la protection du littoral. Une initiative qui rentre dans le cadre du projet Kiwa Payback Plus qui vise à renforcer l'adaptation au changement climatique sur les écosystèmes dans les îles du Pacifique, Charlotte.
Et plus de 500 plants de palétuvier ont été plantés ce matin au bord de la mangrove, au parc urbain de Sainte-Marie. Une action concrète et participative pour enrichir la biodiversité, mais surtout pour lutter contre l'érosion du littoral. François Tron est coordinateur du projet Kiwa Payback Plus en Nouvelle-Calédonie.
On est en rive droite, donc vraiment au bord du parc urbain. On n'est pas du côté de mangrove. Côté parc urbain, on va planter, restaurer la végétation littorale, planter des petits plants, faire des semis directs pour contribuer à tenir la terre et lutter contre l'érosion du bord de mer dans un contexte donc de changement climatique et d'augmentation du niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle donc les solutions fondées sur la nature, donc restaurer les écosystèmes, la nature. Ça va nous permettre de bénéficier des services qu'elle nous rend gratuitement, spontanément, sans même qu'on s'en rende compte. Par ses racines, la végétation va contribuer à tenir le sol. Donc sans végétation, la pente est nécessairement très faible, sinon ça s'érode. Avec de la végétation, on peut avoir une pente un peu plus forte et il y a moins d'érosion.
Et une première initiative avant la fête de la mangrove qui se déroulera demain de 8h à 17h30 à la Maison de la Biodiversité de Sainte-Marie.
Et voyons maintenant le reste du programme festif du week-end.
Et demain soir, au Château Haguen est organisée une grande soirée steampunk, un rendez-vous proposé par le Sci-Fi Club de Nouvelle-Calédonie et son groupe, le Salon des Ingénieux Néo-Vaporistes. L'entrée et les animations seront libres et gratuites. Demain toujours, à la Maison de la parole à Nouméa organise un rendez-vous convivial autour d'œuvres cinématographiques. Les Calédoniens sont invités à rire avec un duo légendaire du cinéma français, Louis de Funès et Bourvil. Les animations seront proposées à partir de 14h. Et direction maintenant le centre culturel Chibaou pour la deuxième édition du marché de l'art et de l'artisanat. De 9h à 16h, venez découvrir les créations de près de 60 artisans et artistes locaux. Les expositions en cours, la boutique et la médiathèque seront ouvertes.
Et notez que le salon nautical sera présent jusqu'à dimanche à Port-Brunelé. Nautisme, pêche, artisanat et sorties en mer seront à retrouver au même endroit que le village de la Groupama Reis. En ce vendredi 13, de nombreux Calédoniens ont décidé de tenter leur chance au jeu d'argent. Entre superstition et opportunité, beaucoup de joueurs sont venus défier le hasard le temps d'une journée. Parmi les établissements les plus prisés, le Grand Casino de Nouméa, qui enregistre une forte affluence pour l'unique vendredi 13 de l'année. Sabine Santa, directrice générale du casino, revient sur cette journée particulière.
On s'attend toujours à une augmentation de notre fréquentation à hauteur de 30%. Ce qui peut impacter aussi en ce moment, c'est qu'on a une grosse cagnotte cumulée à hauteur de plus de 18 millions. Donc c'est ce qu'on peut peut-être attendre aujourd'hui. Les gens viennent comme d'habitude, des curieux aussi, des personnes qui ne jouent pas d'habitude et qui ont envie pour cette journée-là de tenter leur chance. Donc il y a plusieurs profils différents qui peuvent venir un vendredi 13 dans les casinos. Nos restaurants étaient complets dès l'ouverture aujourd'hui. Donc des personnes qui d'habitude ne viennent pas déjeuner au casino viennent rencontrer nos points de restauration. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et de partage.
À l'entrée de l'établissement, les nouveaux arrivants se succèdent. Chacun vient avec ses propres motivations et déjà quelques idées en tête en cas de victoire.
Mais je viens par plaisir, c'est un plaisir le casino et puis ben, pourquoi pas le vendredi 13. C'est la chance par rapport aux autres jours.
Bon, je croise les doigts, j'espère que c'est le jour de chance de gagner, un petit jackpot.
Quand même, on espère quand même, on va pas dire qu'on vient là pour passer le temps, c'est faux. Non, on espère gagner quelque chose forcément. Et puis ma foi, ben, il y a ces sensations là qu'on aime bien.
Je suis très généreuse, donc je vais en faire bénéficier ma famille.
Partir en vacances avec les enfants et en famille. Peut-être Bali.
Une journée spéciale qui s'achèvera tard dans la nuit pour les plus joueurs.
RMB 18h14.
Actualité religieuse avec le rassemblement de Téné qui se poursuit. La jeunesse chrétienne du territoire est réunie depuis lundi pour ce traditionnel rassemblement diocésain. Plusieurs centaines de jeunes sont réunis autour du thème du jubilé « L'espérance ne déçoit pas ». Ils ont suivi des enseignements et participé à des activités. Le traditionnel pèlerinage aura lieu demain. Le départ des pèlerins est prévu à partir de 7h du lycée professionnel Père Guénot. Pour nous en dire plus, le président du comité Marche pour Notre-Dame, Simon-Pierre Séluy.
Tous ces jeunes-là seront acheminés vers la cuisine du frère Elias, où il y aura un départ échelonné par paroisse, à partir de livrée qui sera en tous les cas proposée par le comité. À l'époque, il y avait le chemin de croix. Cette année, le comité Marche pour Notre-Dame de Téné fait la proposition du chemin de lumière. Une proposition qui reste ouverte à tous les responsables, puisque dans la campagne, nous avons dit à chaque responsable de paroisse de s'organiser eux-mêmes de leur propre chemin de croix. Donc chacun est invité à venir avec un livret selon la conception que chacun aurait fait en amont dans leur paroisse. Le trajet du pèlerinage, lui, partira de la cuisine du frère Elias et fera le même parcours en passant par l'intérieur de la taraudière et ce jusqu'au site de Téné.
Un rassemblement des jeunes chrétiens qui se clôturera par la grand-messe qui sera célébrée dimanche matin à 9h par le nouvel archevêque de Nouméa, Monseigneur Sione Poé, sur le site de Téné. 18h15, allez, seconde pause et on passe au sport.
Le départ de la Groupama Race, c'est le dimanche 15 juin au Rocher à la Voile. 25 bateaux dont 6 équipages étrangers sur la ligne de départ pour faire le tour de la Nouvelle-Calédonie avec une seule ambition, la victoire. Du 13 au 21 juin, rendez-vous au village de la course à l'école de voile du CNC, derrière la galerie Port Plaisance. Des animations, des initiations gratuites et des jeux tous les jours. Le programme complet est sur groupamarace.nc ou sur Facebook. Un événement CNC Groupama Pacifique avec la BCI, Sud Tourisme, Air Calin et Replay.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Chers amis golfeurs, The Amateur Golf World Cup est de retour et s'appelle désormais la Soma Bay World Cup. Alors vous aussi, tentez votre chance pour représenter la Nouvelle-Calédonie en Égypte. Prochaine qualification de la Soma Bay World Cup, le samedi 14 juin en formule Stableford au golf de Deva. Inscription par téléphone à Deva au 20 70 16.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Léana Colombo.
Et ouvrons notre agenda de ce week-end avec du rugby tout d'abord et les barrages du top 14, Jean-François.
Oui, Bayonne, quatrième de la saison régulière, recevra Clermont, cinquième demain matin à 6h05. Le vainqueur de cette rencontre défiera Toulouse en demi-finale. Toulon, troisième, lui, accueillera le Castres Olympique dimanche à la même heure, c'est-à-dire 6h05. Le vainqueur sera opposé à l'Union Bordeaux-Bègles en demi-finale. Demi-finale qui auront lieu le week-end prochain. À suivre également à 3h dans la nuit de samedi à dimanche, le match entre l'USAP qui joue son maintien dans l'élite face à Grenoble, finaliste de Pro D2.
Les sports mécaniques avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et les pilotes sont au Canada sur le circuit Gilles Villeneuve.
Un circuit un peu particulier puisqu'il fait le tour de l'île Notre-Dame au cœur de Montréal. Max Verstappen sur Red Bull a remporté les trois dernières éditions de ce Grand Prix. Cette année, le Néerlandais n'est plus intouchable. Oscar Piastri et Lando Norris, les pilotes McLaren, semblent être les mieux placés pour stopper la suprématie du quadruple champion du monde en titre. Charles Leclerc à bord de sa Ferrari et George Russell sur Mercedes seront en embuscade. Côté français, Esteban Ocon a réalisé une très belle sixième place. Il sera au départ de ce Grand Prix, tout comme Pierre Gasly, le rookie, et le rookie Isaac Hadjar. Les essais libres démarrent dans la nuit. Les qualifs, ce sera dimanche matin. Le départ du Grand Prix, lui, sera donné lundi matin à 5h.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Sport automobile, toujours avec les 24 heures du Mans. Le départ sera donné à 1h dans la nuit de demain à dimanche.
Et c'est Cadillac qui s'élancera en pole position avec la monoplace numéro 12. Le constructeur américain s'offre même un doublé grâce à la deuxième place de sa voiture numéro 38 devant la monoplace numéro 8 de Porsche. En tout, 62 voitures et 186 pilotes seront au départ de cette course mythique.
Du cyclisme avec les trois dernières étapes du Critérium du Dauphiné ce week-end. Étape accidentée ce soir avant deux étapes de montagne demain et dimanche. C'est toujours Remco Evenepoel qui porte le maillot jaune, mais le classement général pourrait être chamboulé d'ici lundi. On suivra aussi la suite de l'US Open de golf, troisième majeur de la saison, sur le difficile parcours de Oakmont. Trois Français sont en lice, Mathieu Pavon, Victor Pérez et Frédéric Lacroix. Le sport sur le territoire à présent avec des rendez-vous traditionnels ce week-end et d'abord en mer avec la New Caledonia Groupama Race.
Le grand départ sera donné dimanche de Nouméa entre 10h et 10h30 selon les conditions météo sur l'eau. Cette année, 23 équipages, 19 Calédoniens, 2 Australiens et 2 Néo-Zélandais vont tenter de faire le plus rapidement possible le tour de la Grande Terre avec des passages obligatoires, le Faramédé, le Capendua dans le Grand Sud et les Cornes Est et Ouest au nord des îles Bélep.
Sur Terre maintenant, notre rendez-vous à ne pas manquer dimanche, le trail des Cagous.
Avec un grand changement cette année, cette 14e édition se déroulera non pas au parc de la Rivière Bleue, mais bien à Boulou-Paris, en baie de Bouraquet. Au programme, 4 parcours, 5,5 km, 11,5 km, 24 km, et enfin le trail Sfac de 62 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. Un événement sportif, mais surtout convivial à ne pas manquer. Les départs se feront depuis la baie de Bouraquet entre 5h et 9h30 dimanche.
Un mot de course hippique avec le deuxième rendez-vous de l'année demain.
Le trophée Jean-Yves Lacrosse, deuxième réunion hippique en 2025 après celle organisée à Bouraille. Ça se passera donc à l'hippodrome de Boulou-Paris. Rendez-vous à partir de 11h et jusqu'à 16h.
Du football aussi avec la quatrième journée Super League.
Et c'est l'avant-dernière journée déjà des matchs allés. Dans le groupe A, Horizon Passau affrontera l'ASC Gaïcha samedi à 15h à Marais au stade de La Roche. Match des extrêmes entre le leader Tigasport et la lanterne rouge l'AS Mondor. Le match est prévu à 17h30 samedi toujours au stade du Madelet. Yengensport est exempt. Dans le groupe B, l'AS Magenta leader sera opposé au CA Saint-Louis à 15h samedi à Numadelet. Enfin, le match entre le SC Nedjeu et l'AS Lossy se jouera le mercredi 2 juillet à 19h. C'est l'AS Cougnier qui est exempt ce week-end dans ce groupe.
On termine avec des Calédoniens engagés à l'international.
Et d'abord du karting, Raphaël Gilles et Luca Badovese Robo sont en Australie à Newcastle. Ils participent en cette fin de semaine à la troisième manche du championnat d'Australie de karting. Après les essais libres aujourd'hui, place demain aux essais chronométrés, puis aux qualifs avant les séries et la finale dimanche.
Et puis les quatre pongistes calédoniens engagés au championnat d'Océanie Junior en Nouvelle-Zélande à Christchurch, Mathis Pindon, Raphaël Keane, Erel Barbu et Ivanita Martin disputent les championnats en simple, en double et par équipe jusqu'à lundi. Les résultats de nos Calédoniens hors territoire toujours. En motocross, Arnaud Colson a remporté ces derniers jours la Coupe de France nationale 250 cm cubes. Il n'a laissé aucune chance à la concurrence puisqu'il a été sacré avant même la dernière épreuve du championnat prévue à la fin du mois. Un exemple encourageant pour la jeunesse calédonienne selon Benoît Sauré, vice-président de la Ligue de motocross de Nouvelle-Calédonie.
La performance, elle est bien affirmée parce qu'il est champion de France avant la dernière course. Ça veut dire qu'il est un ou deux crans au-dessus des autres. Enfin, c'est le travail qui paye, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Surtout dans ces sports-là, il faut vraiment s'entraîner pendant des heures et des heures pour devenir pointu. Il a ramé, hein. Il a été blessé, il a quelques soucis. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais c'est surtout des exemples pour ceux qui arrivent derrière. C'est bien, c'est encourageant pour ceux qui ont l'expérience. Quelle que soit la discipline, on est toujours content quand un Calédonien arrive à décrocher un titre comme ça.
Il s'agit du premier titre de champion de France d'Arnaud Colson. Quelqu'un d'autre a également été champion de France et cela faisait 26 ans qu'Axel Raymond l'attendait. Le Calédonien a remporté le week-end dernier la médaille d'or au championnat de France Masters de force athlétique. Il était engagé dans la catégorie des moins de 93 kilos. Pour décrocher cette victoire, le licencié du club Tagalo Agim à Dumbéa a soulevé pas moins de 732,5 kilos après 3 mouvements. Une victoire personnelle pour Axel Raymond, mais surtout pour la Calédonie tout entière, se réjouit le sportif.
Je suis encore sur le nuage. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans que je veux être champion de France. J'ai toujours loupé le coche, que ce soit au taekwondo, que ce soit en athlétisme. Et puis enfin, aujourd'hui, ben, je ramène la médaille d'or au pays. C'est juste énorme et génial. C'est la médaille, non seulement ma médaille à moi, mais c'est surtout la médaille du pays. Parce que lorsque l'on part en championnat, je représente mon club Tagalo Agim d'Imbéa, mais on représente surtout un pays et la Nouvelle-Calédonie. Et faire briller la Nouvelle-Calédonie au niveau national, c'est juste magique. Il y a de plus en plus de personnes qui me félicitent. Je trouve ça génial. J'ai reçu un message de la quadruple championne d'Europe et double championne du monde, Noémie Alabert. Et derrière ça, avoir des Laurent Ganet, des Diane Buduyer qui me félicitent, je ne peux pas être plus dans les étoiles en fait.
En plus de cette première place, Axel Raymond décroche la médaille d'argent toutes catégories confondues, une manière de s'imposer un peu plus sur la scène nationale de la force athlétique. Pourtant, l'histoire aurait pu être tout autre tant les difficultés étaient nombreuses, à commencer par un manque de financement. Le Calédonien s'est rendu au championnat de France à Loos, dans le nord de la métropole, sur ses fonds propres, faute de sponsors. Après ses dernières performances, il espère signer quelques partenariats. Avant de refermer ce journal, un nouveau gagnant pour le jeu SMS RRB au 40-20. Tout à l'heure, Miguel de Nouméa a envoyé son SMS au bon moment. C'était le 1500e SMS et Miguel remporte donc 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où il veut, quand il veut. Et si vous voulez être le prochain gagnant, n'hésitez pas, envoyez dès maintenant RRB au 40-20. Et si vous n'avez pas gagné, rien n'est encore perdu. Tous les SMS envoyés sont remis en jeu pour le prochain tirage du million qui aura lieu le vendredi 4 juillet à 14h. Et c'est ainsi que l'on passe à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, le temps se dégradera par le nord. Des averses parfois fortes et orageuses gagneront le nord de la Grande Terre, puis se décaleront vers le sud en seconde partie de nuit. Sur la façade ouest et la pointe sud, le vent d'est-sud-est variera entre 10 et 15 nœuds, puis se renforcera de 15 à 20 nœuds de sud-est. Localement sous averse, 20 nœuds avec des rafales à 30 nœuds. Ailleurs, vent de secteur est de 15 à 20 nœuds, temporairement à proximité des orages, 20 à 25 nœuds avec des rafales à 45 nœuds. En fin de nuit, il mouillera sur le nord-est de 5 à 10 nœuds. Les températures de la nuit s'échelonneront de 18 à 23 degrés. Demain matin, le ciel restera le plus souvent très nuageux à couvert. Des averses continueront de se produire. Parfois modérées, elles seront encore localement soutenues, voire orageuses en début de matinée. Sur le sud-ouest et la pointe sud, le vent de secteur sud-est soufflera autour de 20 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Sur le nord-ouest, il sera voisin de 10 nœuds. Ailleurs, le vent de secteur nord soufflera autour de 10 nœuds, Léane.